7h21, vous l'entendiez aux informations tout à l'heure, le prix Nobel d'économie a été distribué ce matin aux Américains William Nordhaus et Paul Romer. Pour ce qui est de Romer, c'est un ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Ils ont travaillé conjointement sur la compatibilité entre les impératifs d'innovation et de lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique. Donc, ils ont mis au point des méthodes qui répondent aux défis parmi les plus fondamentaux et pressants du temps, c'est-à-dire conjuguer la croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète, selon l'Académie royale des sciences. Ils vont se partager donc un prix qui équivaut à 1,3 million de dollars. Parallèlement à tout ça, c'est bien entendu ce qui a été représenté hier par ce groupe d'experts. J'y faisais référence hier matin parce qu'on en connaissait quelques éléments, et je n'irai pas dans le fin détail de tout ça parce que c'est un rapport quand même assez important. C'est l'analyse complète de 6000 études scientifiques sur les changements climatiques et surtout l'adaptation et les transformations rapides que devront faire les gouvernements mondiaux. Je dis les gouvernements, que le monde devra faire en général pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et selon ce qu'on raconte, si on veut en arriver justement à limiter cette demande-là, il va falloir qu'on change de ce rapport de 400 pages le résumé de l'intention aux décideurs politiques, ce qui a été présenté. Donc, les impacts qui sont reconnus par rapport au niveau pré-industriel, là, on parle toujours du 1,5 degré, c'est avant le niveau pré-industriel. Les vagues de chaleur, extinction des espèces, déstabilisation des calottes polaires, montée des océans à long terme. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour atteindre ça, il faudra qu'entre 2030 et 2052, quand même, c'est pas long là, en termes de période de temps, sur le rapport, on dit que les États s'en tiennent à des engagements de réduction. Si on s'en tient à ce qui a été noté dans l'accord de Paris, l'augmentation sera de 1,5 degré de plus, donc c'est-à-dire 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais si on veut limiter le tout, il faudra quand même arriver à une chute de 45 % des émissions de CO2 d'ici 2030. C'est demain matin, ça. C'est dans 12 ans. Et je veux juste vous faire noter que les gaz à effet de serre ont augmenté malgré ce qui a été ciblé là, dans l'accord de Paris. Ce que l'on dit, entre autres, c'est si on veut limiter cet effet-là, il faudra devenir totalement carboneutre aux alentours de 2050. Je sais que la technologie évolue très, très rapidement. Les habitudes sont dures à changer aussi. Puis je parlais tantôt avec le prix Nobel de l'économie, c'est toujours, on dirait, la lutte. On a l'impression, une impression qui est véhiculée par beaucoup de groupes d'intérêt et de lobbyistes qui vous diront qu'il y a une espèce d'adéquation impossible entre être économiquement performant et être responsable de façon environnementale, alors que c'est faux. Ça existe. Il y a des façons de le faire. Est-ce que c'est parfait présentement? Non, mais les technologies évoluent à la vitesse de l'éclair. Et surtout, tu sais, il faut se méfier de certains lobbies qui sont très, très puissants, qui, tu sais, parce qu'au lobby des énergies fossiles, ils ont tout intérêt à ce que ça change peu, parce que c'est l'avenir de leur industrie pour laquelle ils militent. Mais en même temps, c'est un peu une vision à court terme lorsque tu dis, moi, je m'en fous, les conséquences en 2100, je serai plus là. C'est une vision à très, très court terme. C'est en se sacrant éperdument de ce qui se passera pour la suite. Est-ce que les dispositions présentées dans le rapport, tout ça est possible de voir de 45 % réduire les gaz à effet de serre? Je trouve ça très, très optimiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, ce que dit ce rapport-là, c'est de dire, on n'en arrive pas à ça, voici les conséquences. Et la marge des changements climatiques, qu'importe ce que vous en dira, là, des climato-sceptiques, puis souvent basés sur rien, ou sur des études minces, ou même sur des interprétations d'études. Mais sur les changements climatiques, là, c'est un fait qui est incontestable. Maintenant, sur l'impact à long terme, sur la durée de temps de tout ça, ça reste à voir. Là. Je me fie à ce que le groupe, entre autres, a présenté. C'est un groupe qui est mandaté par l'ONU quand même, qui a présenté ces résultats-là. On attribue, entre autres, à l'industrie du charbon, du gaz et du pétrole le 3/4 des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Donc, voilà pour ce rapport qui a été présenté hier. Parallèlement à tout ça, il y a une marée rouge qui touche présentement la Floride. Et une marée toxique, donc, qui se répand sur les côtes de la Floride, puis sans faire de raccourci, parce que des marées rouges, ça date pas de... c'est pas récent, c'est pas des phénomènes qui sont récents. Beaucoup provoqués, entre autres, par des marées de tempête qui vont aller brasser certaines toxines dans l'océan et qui vont déplacer ces toxines-là sur des kilomètres. La seule différence, c'est que présentement, en tout cas selon les experts, les biologistes, ce qu'ils disent, c'est que les marées, avec justement l'effet du changement climatique, c'est les marées ont tendance à être plus stagnantes et durer beaucoup plus longtemps, alors que normalement, c'était périodique. Ça durait c'était le temps des saisons, puis après ça, ces marées-là disparaissaient. Mais maintenant, on parle de la Floride, et depuis près d'un an, donc depuis l'ouragan Irma, il y a cette marée-là qui s'est brassée. Et plusieurs secteurs ont été touchés, autant dans le golfe du Mexique que également sur la côte atlantique, là, autant côte ouest et côte est de la Floride. Secteur de Saint-Pétersbourg et de Tampa en Floride qui a été touché, où on a parlé quand même de forte présence. D'autres secteurs que vous connaissez bien, Miami, West Palm Beach, où on a noté certaines toxines. Ça a forcé même dans certains coins où on a dû fermer les plages parce que des gens allaient se baigner puis sortaient puis il y avait des irritations. Ça laissait peu de doute. Mais l'odeur qui en était laissée, c'était pratiquement l'odeur, on parle de produits nettoyants, là, chimiques. Là. Ça avait cette odeur-là qui se dégageait. Donc, on fermait les plages pour un certain temps. Puis après ça, ben ça se dissipe. Mais ces marées semblent vouloir rester à proximité. Donc, le Journal de Montréal nous parle de ça aujourd'hui, si ça vous intéresse. Ah, ça, c'est triste pour les gens d'Haïti. On apprend de plus en plus de détails là, sur ce séisme-là qui a fait au moins une douzaine de morts. Est-ce que c'est 12 ou 14? Mais bref, on parle de près de 200 blessés également dans un des secteurs les plus pauvres de ce pays qui est le plus pauvre de l'Amérique. Et c'est la pointe nord. Ça fait quelques jours qu'on vous en parle. Les détails commencent à rentrer parce que c'est un secteur qui est déjà assez isolé. Et il y a peu de gens qui se sont, il y a peu d'informations qui ont circulé, mais ce que l'on sait, quelques images assez impressionnantes. Il y a eu des répliques, entre autres 5,2 sur l'échelle de Richter hier, une autre réplique de ce séisme survenu au courant de la fin de semaine. C'est un homme qui a quand même marqué la politique américaine pendant peu de temps par son organe de presse qui l'a dirigé pendant une période un peu plus longue aussi, Steve Bannon, qui se retrouve en Europe. Puis ça fait un bout de temps qu'il fait ça, puis le Figaro s'intéresse à sa tournée européenne. Il veut rallier des groupes de droite et d'extrême droite pour faire campagne et tenter de les fédérer. Et c'est ce qu'il raconte, dans le fond, une bataille aux élections du printemps 2019 à venir, et il se promène entre autres avec des gens du Front National. Il a parlé également, de gens qui le premier ministre hongrois qui a été élu il n'y a pas si longtemps, et il parle des stratégies adoptées pour que des gouvernements populistes soient portés au pouvoir. D'ailleurs, je voyais, je ne sais pas si vous avez vu l'élection au Brésil. Là, c'est le premier tour, il y aura un deuxième tour. L'appui est assez fort pour un leader de droite puis j'ai vu des résultats ici à Montréal, d'ailleurs, pour la communauté brésilienne qui est mobilisée ici. Et c'est ce candidat-là qui s'appelle Jair Bolsonaro qui arrive en première place du premier tour. Ici, dans le pôle de Montréal, où il y a une partie de la communauté, on parle pas de dizaines de milliers de personnes, mais on parle de quelques milliers de personnes qui ont exercé leur droit de vote. Et c'est lui qui est arrivé premier à 37,88% du suffrage. Au Brésil également, il a eu une montée, mais il faut dire qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat au courant de la campagne électorale. Et depuis, sa cote de popularité a grimpé en flèche. Il a participé à aucun débat. Il a donné à peu près aucune entrevue. Mais ce que l'on connaît, ce sont il y a un écœurement, faut le dire, au Brésil, envers une classe politique qui a été largement corrompue. Là, il faut le dire aussi parce que Lula da Silva a été envoyé en prison. Celui qui lui a succédé a été aussi accusé de corruption. Et c'est un pays qui est aux prises avec différentes crises sociales. Celui qu'on voyait jadis, il n'y a pas si longtemps, dans un horizon à court terme. On parlait même d'un des pays les plus émergents du monde. Et on l'a vu par les Jeux olympiques, à quel point c'est un pays qui était déchiré par de la pauvreté et justement cette corruption de la classe politique qui a fait extrêmement mal. Quel accident épouvantable survenu dans l'État de New York. Ça s'est passé tout près d'Albany, si vous connaissez bien, dans le milieu de la capitale de l'État de New York, à vrai dire. Et c'est une vingtaine de morts survenues. C'est un accident, un seul accident qui a fait 20 morts. Il faut dire que la majorité des passagers étaient dans une limousine. Et pour une raison qu'on s'explique encore mal, c'est que la voiture a carrément dévalé une pente, est entrée en collision avec des piétons et également avec un magasin de l'endroit. Et on pense qu'au moment de l'impact, le véhicule arrivait à plus de 90 km à l'heure. Et si bien ne laissant aucune chance aux gens qui étaient, aux occupants à l'intérieur du véhicule en question. Et là, on va tenter de comprendre. Il faut comprendre que on est dans une petite municipalité, mais on est également, c'est le même groupe d'amis. Ils célébraient un anniversaire quelconque, mais il s'agit d'une tragédie routière, la pire depuis 2009. 20 morts dans ce seul accident de limousine survenu dans l'État de New York au courant de la fin de semaine. C'est survenu dimanche. Autre élément également, les radars photo, on le savait, ça tourne au ralenti. C'est en raison, vous savez que le gouvernement du Québec s'était fait taper ses doigts avec une décision du juge Serge Simon qui invalidait la preuve recueillie par les radars photo. Le gouvernement avait décidé de ne pas aller en appel de la décision et de revoir la façon dont on recueillait la preuve. Puis ça a pris du temps avant que c'est juste. Les radars photo ont repris du service, mais pas aussi vite qu'on nous le dit. On dit que ça va être cet été, là. Les chiffres qui ont été recueillis par le Journal de Montréal aujourd'hui en font foi, parce que le nombre de constats d'infraction émis par les radars photos demeure quand même relativement peu élevé comparativement au passé. Et on a parlé beaucoup, je reviendrai peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, on reviendra là-dessus, la manifestation, des milliers de personnes qui manifestent contre le racisme et la CAQ, on se prédit tout un automne, là, concernant les symboles religieux. Le nouveau gouvernement en place a ouvert cette boîte-là en parlant des signes religieux chez les officiers de loi, mais également dans le réseau scolaire. Et la manifestation, là, je tiens juste à le préciser, était organisée avant même l'élection. Mais mettons que ça a donné du carburant avec les déclarations de la dernière semaine. Et là, ce sera la confrontation à savoir est-ce que c'est xénophobe, racisme ou on parle de laïcité. Puis, je peux vous dire une chose, si vous regardez les médias sociaux un tant soit peu, vous vous rendez compte que c'est reparti de plus belle. Là. Puis il n'y a pas vraiment de dialogue. C'est chacun est campé dans sa position, puis il reste. Mais je pense où là, le gouvernement fait probablement fausse route, puis il risque de perdre à peu près sur toute la ligne, s'il maintient la position envers les enseignants concernant l'histoire des signes, des symboles ostentatoires ou des signes religieux, c'est à peu près convaincu qu'ils vont perdre là-dessus. Sur les officiers de loi, je ne suis pas sûr qu'ils vont gagner parce que la jurisprudence de la Cour suprême canadienne a donné raison, entre autres, vous vous souvenez, aux policiers Sikhs dans les années 90, dans une décision qui date déjà depuis très longtemps. Ça a été lutté par des villes, ça a été lutté par des corps policiers, ça a été lutté par des provinces, et tout le monde a été défait. Cependant, est-ce que la clause nonobstant pourrait se venir, c'est-à-dire que il y a un outil législatif qui existe pour les provinces, de se, comment dire, retirer d'un élément émis de la Cour suprême, une décision est rendue, une province pourrait sortir la clause nonobstant en disant « on se soustrait de la décision » et pour les officiers de loi, voici, il n'y aura pas de symbole religieux. Ça reste à voir, mais le débat est lancé. Parlant de débat, ça aussi, parlant de bataille judiciaire en devenir, la Gendarmerie royale du Canada qui rendra pratiquement impossible la consommation de cannabis pour ses officiers, on dit « 28 jours avant votre quart de travail, vous ne pourrez pas fumer du cannabis ». On pourrait l'ajuster avec le temps, c'est ce que nous dit le gouvernement fédéral.